France Inter.
La bande originale avec les deux capitaines Elisabeth Moitié, Marabojan, Tristan Lepin, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Coucou Tristan.
Et nos invités Clémentine Serrier et Elisa Erka.
Leïla Kadour et Nazim.
La chance que c'était pas sûr qu'Elisa accepte de venir, donc c'est bien. Ravi de vous accueillir, Elisa. Mais c'est sa première, t'imagines?
Elle est son baptême.
Bienvenue.
On est sur un rire nerveux là. Si j'avais su, je serais restée.
Elle est inquiète. Elle est inquiète. Alors que Clémentine est beaucoup plus sereine.
Oui, sereine. Oui.
Elle attend.
On va évoquer avec vous cette série qui va démarrer à partir du 18 février, qui s'appelle Mémoire vive. Elle pourrait même s'inscrire au pluriel, c'est mémoire vive, parce que vous avez toutes les deux un rapport particulier à la mémoire. On est quand même dans un thriller, on est dans un policier clairement, mais avec un prisme assez particulier sur la mémoire. Alors comme justement il y a un souci de mémoire pour vous, votre personnage Elisa Erka, sur les mémoires d'enfance, petit tour de table, est-ce que vous vous souvenez, enfin, le plus lointain souvenir, le fameux premier souvenir? Et attention, pas celui qu'on a dans les albums photos, les vidéos des parents, genre, là. Non, le vrai premier souvenir.
Oui.
T'as pas de bol, Lisa, sur toi la première.
C'est dur.
Non, je me souviens que je suis dans la maison de mon grand-père et je pense que je m'en souviens parce qu'en fait, il venait de décéder. Et donc, mon.
T'as toujours une anecdote sympa avec
Oui, mais je suis désolée, mais moi, je.
Elle est belge,
Tout le monde meurt. Non. Bah, si, en fait. Mais
oui,
bref.
Mais c'est
bref. Et donc, je vois ma mère qui fait des cartons et moi je suis assise dans une chaise haute et c'est mon premier.
C'est ton image,
voilà.
Première image. Ouais. Ok, Tristan Lepin.
Ma première image, c'est j'étais sur la plage avec ma mère et elle était assise avec les jambes un peu pliées. Je me souviens très bien d'avoir
touché ses cuisses.
J'avais genre, je pense, 4 ans, un truc comme ça.
Okay.
Et je touche ses cuisses comme ça et je lui dis, ah, c'est marrant, ça fait floc-floc.
Ah, déjà avec ça. Déjà cet esprit si bienveillant.
Et ça, je me souviens très bien de ce moment.
Et t'en as fait une carrière.
Ça a démarré très vite.
Et ma Beaujean
Moi, c'est sur la plage aussi.
T'as quel âge?
J'ai un tout petit peu moins de 4 ans.
Et j'ai un garçon qui vient qui fait flop flop.
C'est en Martinique et je me souviens de la sensation du sable sous mes pieds et surtout je me souviens que j'ai un esquimau au chocolat noir et qui fond partout et c'est trop agréable et ça goûte du chocolat noir, c'est très agréable.
Ok. Oh, wow. Leïla.
Alors moi je suis dans un ascenseur. Dans...
Attends, t'as quel âge? J'ai pas demandé Lisa, tu fais quel âge à ce moment-là?
4 ans.
Ouais, pareil. Ouais.
Moi,
parce qu'on a, sincèrement, les premières années c'est impossible.
Je dirais que j'ai dans les 4 ans aussi, mais j'avoue que déjà avec les enfants devant moi, je sais pas l'âge qu'ils ont, alors me dire quel âge j'ai moi. Je suis dans un...
Non, mais c'était la situation...
En fait, voilà, en région parisienne, donc forcément j'ai 4 ans, enfin j'ai moins de 4 ans, je suis en train de manger une banane dans l'ascenseur, on descend, et je me dis, c'est vraiment mon fruit préféré. Et j'ai un amour pour la banane.
C'est resté.
C'est resté. Ouais. Passion banane.
Passion banane, très bien.
Hold on. Vraiment.
Tout le monde se retient, j'aime bien.
Toujours.
Tout le monde a la banane, mais elle fait la banane.
C'est ça. Parce qu'elle a 4 ans.
Elle a 4 ans. Et elle découvre tout d'un coup que gustativement, elle a un destin qui est lié à cette banane.
Merci.
Il y a un destin de la banane.
C'est comme l'esquimau à la Martinique.
Daniel, c'est
comme. Daniel,
c'est dégueulasse. Moi, j'étais petit, j'avais un peu plus. 2 ans et je me
deux ans genre tu te souviens d'un truc à 2 ans?
Alors j'avoue que j'ai la mémoire qui remonte vite, je peux
c'est un trauma, pas vite
de tous les noms de ma première classe maternelle, donc j'avais trois quelque chose, non mais le premier souvenir qui ressemble à celui de Lisa, c'est l'appartement de ma grand-mère. Alors je me souviens pas de ma grand-mère, je me souviens de son parfum et
l'odeur de l'appartement de chez mamie,
c'est ça, la laque de cheveux, la laquelle nette, ça je me souvenais de ça, mais je me souviens pas de
merci c'est trop long,
je veux me confier, laissez-moi parler.
Il y a aucune chute, il y a rien. Je suis à l'appartement.
Je te déteste.
C'est après la banane, c'est pas facile.
Il va nous faire une chanson, l'appartement de ma grand-mère.
Mais oui. L'appartement de ma grand-mère.
Daniel.
Ouais, moi c'est, je devais avoir 6-7 ans.
Petit un jour.
Oui, j'étais tout petit.
J'étais barbu déjà. J'étais barbu.
Un incroyable sentiment de liberté. Je devais avoir 6-7 ans et c'est mon oncle qui ouvre la porte de la cave.
Oh! Merci, tu nous donnes. Voilà.
Et c'était.
C'est que lui, il arrive toujours à la la fin, donc il cherche, il cherche. Je suis dans la
personne.
J'ai 3 ans et demi, 4 ans, à peu près.
C'est trop long.
Et c'est là. Je me souviens de mon. J'avais un tricycle rouge, monsieur.
Oh, wow.
Ouais, avec, avec le petit coffre à l'arrière dans lequel je mettais mon doudou.
C'est joli.
J'avais arraché
T'as
son.
Eu un doudou,
j'ai eu un
doudou.
Ouais, un nounou, j'avais arraché son œil. J'avais une âme.
Ouais.
Et je faisais le tour. Je faisais le tour de la maison de la salle à manger en Égypte. Donc, et je me prenais les. Qu'on appelle ça? Le coffre dans les chaises.
Ah, oui.
Et ça m'embêtait.
Ah, oui.
Et donc je tapais les chaises parce que je ne pouvais pas faire mon tour de circuit normalement.
J'ai licencié les chaises.
J'ai licencié les chaises.
Tu es bien.
Elisa, votre premier souvenir d'enfant?
Je sais pas si c'est le premier, mais moi je m'amusais très tôt à mettre plein de petites chaises.
C'était vous?
C'était moi. Il y avait plein de petites chaises comme ça que je créais un bus et je mettais toutes mes peluches dessus et je conduisais le bus.
Mais évidemment, mais vous aviez quel âge à votre avis?
Mais je sais pas.
4 ans.
Ouais, mais tôt.
16 ans et demi.
Ouais.
Clémentine Zellerrière, souvenir, le plus lointain souvenir.
Ben oui, mais alors c'est moi, j'avais 14 ans, mais je tiens à raconter ça parce que c'était atroce.
Ah, et ah oui, s'il vous plaît.
J'étais avec ma tante, une tante que je n'aimerais pas, et je lui dis, le Père Noël, cette année, je suis contente, il va m'apporter la nain. Et
elle me dit,
enfin, Myriam, parce que je m'appelle Myriam, le Père Noël n'existe pas. Je lui dis, comment ça? Tu es persuadée qu'elle se trompait, quoi. Donc, elle m'a traumatisé à vie.
Ah, mais elle se trompe.
Elle a tort parce que le Père Noël existe.
Et voilà, elle se trompe.
Non, mais je sincèrement.
Bah oui. Mais oui, c'est bien. Il faut être sincère.
Il y a des gens, il y a vraiment des gens
possibles. 4 épisodes de 52 minutes, mémoire vive. On va en parler évidemment jusqu'à midi et demi. Mais d'abord, voici Oldelaf qui est fan d'Elisa, fan de Clémentine.
Avec une telle carrière, nous on rêve car vous avez débuté sur Inter. Je suis fan d'Elisa RK, comédienne et même chanteuse à la si jolie voix. Votre personnage nous éclaire sur les flics, c'est bien. Elle dort pas, elle danse en boîte, se rappelle plus de son chien. Et vous êtes ici pour la série Mémoire Vive. C'est pas une nouvelle émission de Simès qui arrive. Elle parle bien sûr de la maladie d'Alzheimer, un mal terrible dont souffle un de nos chroniqueurs. On recevait Célarié qui avait l'air douce comme une brebis. Mais Daniel Morin est arrivé à l'aile pas fraîche et il m'a dit: je me suis bourré au rosé, gros lave, je te trouve presque joli. Mais quand j'ai dit non, Daniel, il a grogné, l'air pas gentil. Il m'a dit d'aller le bifler là-haut sur la colline, de le fouetter avec un petit bouquet d'églantine. J'ai eu tellement peur et j'ai crié tant que j'ai pu. Il a secoué la tête, j'ai dit quoi? Je me rappelle plus. Alzheimer. Alzheimer. Je suis fan de Clémentine Célarié. C'est génial d'être intermittente et Célarié. Vous avez passé votre temps en Europe, la France, en Afrique, c'est chic. Maintenant vous vivez plutôt à Crozon saison. Je suis fan de Mémoire Vive. Pas de blagues sur les gigabits, j'ai peur que Daniel dérive. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale.
Mais ça lit-il le patrimoine culturel français?
Alzheimer, mais il fallait oser quand même.
Il fallait oser. Moi, j'ai pas retenu ça.
Mais j'ai retenu que Alzheimer. La Saint-Valentin, c'est demain.
C'est demain. Il en a fait une chanson, un clip magnifique. On peut compter sur lui.
Demain donc, Alzheimer. Le premier épisode qui passera le 18 février prochain, Clémentine Zellerrière ouvre sur vous. Vous préparez. Vous êtes très très chic.
Petite bigote, bien petite. Enfin,
son petit foulard, voilà, son petit foulard en soie, exactement, qui retourne au tribunal parce qu'elle a été greffière, elle est greffière, mais son badge ne passe plus.
Et c'est... Non, parce qu'elle est à la retraite, en fait, elle a oublié.
Oui, ouais. C'était la chute de ma phrase, mais c'est pas grave. Son badge ne passe plus, et là, c'est l'hôtesse gênée qui dit, mais ça fait bien longtemps que vous êtes à la retraite, plusieurs mois que vous êtes à la retraite, vous l'avez oublié. Et là, on comprend qu'il y a un problème de mémoire.
Ouais.
Le pas en arrière, il est terrible sur la scène. C'est hyper marquant. Ouais. C'est hyper. Ouais. Je trouve il y a le tourbillon de. On se rend compte de la maladie. Mais pardon, je...
On a la tête qui. Non, c'est vrai. On a parce ouais. que nous, on n'a pas l'info justement quand on regarde la série. Début, on se dit, ouais. elle va bosser, c'est normal.
Oui. Ben oui.
Et c'est là où on se dit, waouh, il y a un problème.
Et ouais. comme elle a peur d'oublier, elle se dit qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'elle règle oui. avant de perdre totalement la mémoire.
En fait, c'est le toubib, le docteur, qui lui met le truc ouais. dans la tête en lui disant. Est-ce que vous n'avez pas un projet, parce que les sous réaliser. Ça l'emmerde, et à réaliser, et en tout cas, elle réalise qu'elle a quelque chose à faire, c'est de venger, oui, et de tuer des cons, des criminels, quoi.
Elle devient donc tueuse en série.
Ouais. Elle est super, cette tueuse. Et...
Enfin, ça, c'était bon. Ah, ouais. Est-ce qu'on pense à tous les emmerdeurs de notre vie, enfin, ouais. je veux dire, personnellement, on les tue en faux, enfin, je veux dire, ouais. voilà, à travers un personnage.
Elisa devient l'enquêtrice, Elisa Erka, vous interprétez celle qui est la quoi, l'inspecteur un peu rock, un peu déjanté, qui se fait des nuits blanches, qui est fatigué. Même tout le monde au commissariat lui dit repose-toi, dors un peu, tu peux pas tenir le coup comme ça. C'est la rockeuse, quoi.
Ouais, c'est surtout une nana qui prend pas conscience qu'elle est dans un, elle aussi.
Elle se perd un peu.
Elle se perd, elle se noie, elle est. Moi, je dis qu'elle est un peu boulimique de tout, de sortie, de vivre, de. Elle surnage, elle comble le vide. Elle sait pas quel vide elle a à combler, mais elle comble un peu quelque chose.
Ouais, et puis elle consomme les mecs
elle
aussi.
Elle consomme les mecs, comme... elle se noie dans le taf. Ouais. Elle est en colère, elle sait pas trop pourquoi. Enfin voilà, elle a un tempérament.
Elle a un problème de mémoire, elle aussi. On va pas spoiler. Il est parce qu'il y a un vrai twist oui. qui arrive au bout de quelques épisodes, donc à vous de le découvrir. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que clairement, lorsqu'elle est en réunion de copines et quelqu'un fait une vanne sur les animaux de compagnie, d'un coup elle se rend compte qu'elle a oublié le nom oui. de son chien, elle en a peur, elle se demande si même elle n'est pas atteinte d'Alzheimer parce qu'il n'y a pas d'âge, malheureusement pour cette...
Elle ne se souvient même pas qu'elle a eu un chien. Même.
Ouais, non. M'a dit. Non, ouais, c'est pas. Son frère qui le renvoie l'info.
En fait, à mesure que le personnage de Clémentine oublie, j'ai l'impression que votre personnage commence à reconstituer des souvenirs. Ouais. Voilà.
Oui, exactement. Ouais. C'est vraiment ce chassé-croisé de mémoire troué qui se complète, une qui perd la mémoire, une qui la retrouve. Et en effet, mon personnage perd petit à petit, enfin retrouve petit à petit des éléments de sa mémoire.
Il a fait son enquête dans son cerveau, en fait.
Oui, mais en ayant toute cette pudeur de dire, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié tout. Ouais. Donc de se rendre compte qu'il y a un déni qu'elle est en train de...
Mais Esther, elle tue parce que... Je te coupe pas.
Je t'en prie.
Parce qu'elle venge Célia, en fait. Elle lui laisse des petits mots.
Ah mais non, mais moi je voulais pas tout dire tout de suite.
Non. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle tue pas comme ça.
Non.
C'est ça que je veux dire.
Non, elle a un vrai projet.
Elle a un vrai projet.
Un vrai projet.
Non, mais et ça, c'est
elle est organisée.
Ça va, c'est pas grave.
Alors,
c'est
ça va, c'est un projet.
Si c'est justifié, ça va.
Ça va. Ouais. Puis c'est retourner la maladie. C'est-à-dire, c'est se dire, ok, je suis foutu. Enfin, parce qu'on n'a pas encore trouvé de remède contre Alzheimer, mais du coup, qu'est-ce que je fais de bien ?
En tout cas, la science avance énormément sur la maladie d'Alzheimer.
Oui,
énormément.
Tant mieux.
Mais elle veut être une belle personne, elle le dit.
Oui,
elle veut faire le bien.
Parce qu'elle a été là.
Non, ce que l'on sait, c'est que dès l'instant où elle sort de chez son médecin et qu'elle a ce projet-là, elle va chercher des dossiers, elle retrouve ces dossiers et elle prend un compte-rendu. Puisqu'elle était greffière, un compte rendu d'un procès, elle la note, elle souligne des noms, et on imagine, et là d'ailleurs, elle le dit, je crois qu'elle a la voix, on entend la voix qui dit ça, à nous deux maintenant, mes cocos, je vais m'occuper de vous. Et là, c'est le début du massacre. Voilà.
Ça va, c'est thérapeutique.
C'est pour son bien. Ouais. C'est pour son bien, il faut penser à ça. J'ai été vraiment agréablement surpris par la série, enfin surpris, je m'attendais à rien de particulier, si c'était avoir un policier. énième policier, mais le prisme par lequel vous passez, la manière dont c'est fait, la manière dont vous jouez, qui est très drôle, c'est bien filmé.
C'est très drôle,
c'est, ouais, c'est drôle. Il y a des, ouais, il y a des pures vannes, des pures situations, y compris dans les ping-pong avec les partenaires au sein du commissariat. On sent bien qu'il y a, elle a oui. des, elle a des doses.
Elle a des doses. Il y a chaque petit personnage entre guillemets petit hyper singulier, bien oui. soigné. Ouais. Enfin, c'est très bien les soigné.
Et puis l'interaction que vous avez avec votre petit-fils et ou votre fille, et c'est à pleurer de rire.
Et ma fille, Émilie oui. Kahn, mon petit-fils oui. Johan Elundu, c'est des
parce gens, que votre petit-fils soupçonne, imagine que vous êtes une sorte de grande dileuse, et ça c'est oui. très drôle.
Mais parce que...
Et je lui laisse croire, en plus.
Oui, ouais, mais, ouais. Non, mais parce qu'elle est, obligée aussi de cacher, commencer à se retrouver avec son flingue dans sa boîte à bonbons dans la voiture. Donc elle a
des corps à transporter. Elle a du boulot, quand même.
Ça vous a plu de jouer Ça vous a plu de jouer une sérielle qu'il
J'ai adoré.
Et je c'est la première fois.
J'aimerais bien qu'il. C'est la première fois. J'espère que ce sera. Il faut attendre quelquefois du temps pour avoir des rôles géniaux.
Ça va être coup d'attendre celui-là. Ouais.
Et moi j'ai adoré faire ça. Et Arnaud Malherbe est un super réalisateur. Et c'est très bien produit. C'est vrai que M6 qui fait ça, c'est quand même très original, quoi. C'est surprenant. Et j'ai adoré faire ça et j'espère continuer. Et j'espère qu'on va faire la saison 2. Mais voilà, bref.
Ça vous donne des idées d'activités en dehors du boulot, de tuer des gens, de vous venger.
J'ai pas le temps parce que c'est dans la créativité, toujours.
Clémentine Sélarié et Elisa Erkas sont avec nous, donc nous parlons de Mémoire vive qui passera à partir du 18 février prochain sur M6, 2 épisodes par soir, mais d'abord voici Lisa Delmoitier. Ah oui. Est-ce que Lisa, vous n'auriez pas fait une série comme ça, vous, sur
Non, j'aurais pas fait la série comme ça, Nagui. Quelle série
D'accord.
Qui êtes-vous
Sur la série sur Alzheimer.
Il y a un arabe qui me parle.
Non, mais ça fait d'habitude toi, quand même.
On s'habitue jamais.
Ah, c'est bon.
Non, c'était une blague sur l'Alzheimer.
Ouais, c'est très drôle.
Et après, une blague raciste. Mais ça, c'était juste un bonus hors thème. Mais... Mais je pense qu'on a le droit de, faire des blagues sur l'Alzheimer. Les gens qui souffrent de cette maladie ont un sens de l'humour, vous savez. Ils sont pas rancuniers, mais ils oublient vite. Bon.
Oh, non.
Comme votre personnage dans la série Mémoire vive, Clémentine Sélary, une ancienne greffière atteinte de la maladie d'Alzheimer, on l'a dit, qui sentant la fin approcher, décide de régler ses comptes. Donc on la suit, faire sa compta pendant 4 épisodes. Non, c'est pas ça qui se passe. Non, elle va régler ses comptes. Merci. Elle va régler ses comptes dans le sens qu'elle va se mettre à buter des gens dans une course contre la montre avec sa propre mémoire qui disparaît, parce que malheureusement quand le cerveau humain bug, on ne peut pas le redémarrer. À ma grand-mère, je l'embrasse, Monique, oublie parfois quel jour on est, et j'ai déjà essayé de l'éteindre et de la rallumer, ça ne marche pas. Monique reste complètement larguée, je vous jure, ma mamie elle est larguée, chaque fois que je la vois, elle me dit « tu travailles toujours avec Nagui ». Oui, mais tous les jours je regarde, tous les jours je te vois pas. En fait, elle croit que je travaille pour n'oublier pas les paroles. Sachez-le, Nagui, vos audiences, c'est juste tous les grands-parents de vos chroniqueurs qui cherchent leurs petits-enfants à l'écran. Bon, mais face à vous, Clémentine, il y a votre personnage, Elisa Erka, qui va enquêter donc sur ces meurtres en retrouvant sur les corps des messages laissés par la meurtrière, messages que votre personnage peine à déchiffrer. C'est complètement débile. Non, c'est pas pour ça. C'est juste des indices pas faciles à déchiffrer. Votre personnage n'est pas débile, mais elle a une autre particularité. Elle a, sans spoiler, ses propres challenge avec la mémoire, et je compatis parce que moi-même, je perds parfois la mémoire.
Non, tu vas pas recommencer.
C'est important de faire deux fois la... Il y a toujours un arabe qui me parle. Non, non, j'avais déjà fait cette blague. Non, mais c'est vrai que moi aussi,
je suis fatiguée.
J'ai vraiment du mal, en fait. Je crois que c'est le karma direct de l'Alzheimer. Non, mais c'est vrai que moi, j'oublie des moments de vie. C'est quand je suis trop stressée, je passe en mode survie. Je fais le taf, mais je dissocie de mes émotions. Et après, les gens sont là, Lisa, t'as l'air tellement de t'en battre les couilles. Je m'en bats pas les couilles, hein, juste je suis morte à l'intérieur. C'est ça qui se passe. Mais le problème de la dissociation, c'est qu'après, je me souviens plus bien de ce qui s'est passé. Je vais être honnête avec vous, ma première saison sur France Inter, j'étais trop stressée, donc je m'en souviens pas.
Mais
vu que plus aucun homme de ma famille me regarde dans les yeux, je crois que j'ai parlé de mon cul. quelques fois, il semblerait. Pour moi, c'est vrai, en plus, Noël sont compliqués, là. Pour moi, c'est lié à du stress joyeux, des expériences professionnelles, mais ça me fait quand même chier parce que j'aimerais bien m'en rappeler. J'ai des potes qui m'appellent. Alors, Lisa, ça fait quoi d'avoir rencontré Omar Sy dans un bon original? Je suis là, vraiment, c'est jamais arrivé. Je pose pour n'oubliez pas les paroles, moi. Donc, vraiment. Mais ça me frustre. Je veux retrouver mes souvenirs, même des moments stressants. Donc, je travaille en ce moment. Je travaille sur mon stress. Hein. Je fais du yoga. Quoi? Je fais des exercices de respiration. J'ai deux boules anti-stress aussi. Daniel m'a prêté les siennes. C'est pratique parce qu'à son âge, il peut être assis là-bas c'est et je peux les malaxer ici. Bah, c'est quand même...
D'ailleurs, si vous pouvez me les rendre.
Bon, sur ça, je m'excuse aux hommes de ma famille qui vont devoir assumer cette blague. Moi, pas, je m'en souviens déjà plus.
Merci. Lisa Delmoitier. Cette série Mémoire vive, c'est une adaptation. Après, je m'en suis rendu compte que, après avoir vu, elle vient de Turquie, c'est ça? Et vous avez vu la version originale?
Non, surtout pas.
C'est avec un homme,
pourquoi surtout pas?
Parce que moi, je voulais. D'abord, j'aime m'approprier les trucs parce que j'ai pas envie de copier. Et j'avais envie de penser que voilà, c'était la première. Je sais pas comment dire pour que ce soit pur, quoi, vierge. Mais je sais que c'était une très belle série et qu'il y a une série. Il y a la saison 2 qui a déjà été tournée.
On a compris le message, hein, Clémentine. Vous êtes prête pour la saison 2? Le message est passé.
Non, mais s'il n'y a pas une saison 2, on
la fera ailleurs.
On la fera ailleurs.
On la fera ailleurs.
Non, mais non. C'est pas ça que je veux dire. On l'écrira. On
s'en fout. Clémentine n'est pas en Turquie demain. Saison 3.
Non, non, mais c'est. Ce qui est chouette, c'est que c'était un héros et que là, c'est une héroïne. Ça, c'est sympa.
Et ça renouvelle vraiment le genre, je trouve. Absolument. Ne serait-ce que d'avoir ce personnage principal qui est maladroit, qu'on ne peut pas vraiment soupçonner parce qu'en fait, il a l'air complètement inoffensif et en même temps qui rend la justice à sa façon. En fait. Je trouve que c'est aussi une façon de se sortir des éternelles enquêtes.
Sûrement, elle s'est tue pendant des années. C'est-à-dire, la greffière, on imagine.
Elle a une culpabilité.
Le greffier est là pour noter, n'intervient pas dans les procès, n'a pas son mot à dire, mais par contre elle a bien une idée précise de ce qui a pu se passer, elle a entendu tous les témoignages, elle a vu toutes les victimes, les agresseurs et tous ceux qui ont donné plus ou moins bien la justice, et ça ne passe plus. Donc elle a un projet, oui, c'est remettre les choses peut-être à leur place. Elle, dans sa tête, elle n'est pas serial killeuse, elle veut remettre les choses comme elles devraient être.
Mais elle a du courage en même temps, parce que faire ça quand même,
C'est une fiction, Clémentine, c'est une fiction.
Ce qui est génial, c'est qu'elle le fait avec beaucoup de maladresse et d'humour, et c'est aussi ça qui rend la série charmante, que le personnage qu'incarne Clémentine est hyper... pour être tout le monde, quoi.
On s'est rarement autant attaché à un serial killer.
Bah oui, on a beaucoup d'empathie pour lui.
Et de l'autre côté, alors, donc, il y en a une qui a le sentiment peut-être de s'être trop longtemps tue en tant que fonctionnaire et qui d'un coup se dit, ok, oui, j'ai un projet, là, je vais m'outer et je vais me révéler. Et à l'inverse, cette policière que vous incarnez, Elisa Erka, elle est douée. Même torchée, fin de soirée, elle arrive sur une scène de crime, elle arrive à rapidement voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières répliques, c'est l'un de ses camarades qui dit « Mais qu'est-ce que ça serait si tu avais dormi ?» Tellement t'es déjà géniale, t'es fulgurante après une nuit blanche, tu serais géniale. Et elle est dans l'excellence, mais elle va remettre en cause son excellence parce qu'elle va être perturbée par ce serial killer et parce qu'elle va perdre ses moyens. Donc c'est vraiment, les chemins sont croisés en termes de mémoire, mais en termes aussi d'épanouissement, j'allais dire, dans le boulot. C'est jouer une flic un peu décalée, ça doit être aussi agréable. C'est-à-dire, c'est aussi la tendance en ce moment. HPI, c'est ce que fait aussi Audrey Fleurot.
Moi, ce que je trouve charmant dans cette série, c'est que je trouve ça très bien écrit, et je trouve qu'il y a vraiment ce côté justement pas sur-héroïnisé, je sais pas si ça se dit, de chaque personnage, ni du serial, ni de la flic. Ça pourrait être moi, cette meuf, ça pourrait être n'importe qui, et je dirais même pas qu'elle est rock, en fait elle est
fragile aussi un peu.
Elle est complètement fragile, elle cache tout, elle balise, elle comble, enfin, et je la trouve super super attachante, cette fille.
Non, c'est subtil, c'est extrêmement bien joué, en tout cas bien réalisé. Ça nous a plu.
Il y a des scènes de comédie géniales quand vous détenez Michel vraiment cet homme que vous détenez chez vous enfermé, ça c'est très très drôle, ces scènes-là.
Toi tu peux tout spoiler, on est d'accord.
Non, hein, mais parce que j'ai adoré ces scènes-là où elle le détient et elle est en train de préparer un petit costume qu'elle est en train de coudre à l'ancienne, quoi. Il y a quelque chose de très très artisanal
parce qu'elle se rend compte qu'il y a des caméras de surveillance. Il faut éviter de se... Oui, elle est très intelligente.
Oui, il faut qu'elle réfléchisse quand même. Et puis puis moi j'aime bien le fait que qu'il y a des problèmes. Il faut qu'elle justifie quand même ses absences auprès de sa fille, sa famille, tout ça. Il faut qu'elle soit la gentille petite dame qu'elle a toujours été.
Et puis elle a une acolyte dont on n'a pas parlé, c'est Carmen. Carmen, elle est exceptionnelle. Geneviève Emmanuelli, c'est ça. Elle est exceptionnelle.
Merveilleuse. On est dans un peu arsenic et vieille dentelle, c'est-à-dire que elle est tout à fait normale. Elle est anodine. C'est cette dame à la retraite, malade, que l'on ne peut pas soupçonner.
Ah non. Non.
On ne peut pas soupçonner.
Non, c'est ça qui est bien.
Et elle n'a pas le délit de,
non,
de,
non, non,
de
non,
faciès,
non.
Elle.
Mais il y a un truc chouette, je trouve, c'est qu'elle y a quelque chose par rapport à la femme aussi, à ce que c'est. Parce qu'on peut dire quand même qu'elle. Hein, on peut dire ça, parce qu'on ne sait jamais.
Je ne sais pas, c'est vous.
Non, non, mais si, mais elle veut quand même rendre justice à cette jeune femme
oui.
qui joue Elisa. Qui est Célia, elle veut rendre justice à une femme qui a été abusée, qui a été
Il y a un traumatisme, ah, il y a oui. un traumatisme.
Donc ça, on peut non mais ça, on peut le dire.
Je sais pas. Okay.
Un trauma.
Si, on peut le dire parce que c'est important, parce qu'en fait, même si il y a quelque chose, en tout cas, qu'elle veut racheter, enfin qu'elle veut venger de ce qu'a vécu cette jeune femme. Mmh. Et c'est pour ça qu'elle tue tous ces mecs. Il y a pas que des hommes qu'elle tue, elle tue une femme aussi.
Enfin, voilà.
C'est
bien
que j'y pense. Oui, c'est vrai. Il y a de la parité. Non,
et puis, cette maladie d'Alzheimer qui est un drame évidemment pour les malades, mais pour toute la famille. C'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer a un impact sur les proches, les enfants. On imagine une maman qui ne reconnaît plus son enfant, le trouble que ça peut amener, évidemment, et la tristesse que ça peut apporter. C'est pas une maladie. Enfin, toutes les maladies ont leur particularité, mais celle-là, elle, malheureusement, irradie. Sur toute la société, la vie sociale en tout cas, et sur toute la famille. Et c'est un peu ce qui se passe, mais à l'envers. C'est-à-dire que cette maladie dont elle est atteinte, ça devient un peu une sorte de comédie, parce qu'elle peut oublier un revolver quelque part, elle peut oublier quelque chose sur une scène de crime.
Ça la stresse vachement quand même, voilà. Mais elle rebondit toujours. Ouais,
exactement, exactement.
Mais de toute façon, je pense que des personnes, j'en ai rencontré quelques-unes, quand elles ont Alzheimer, souvent elles ont beaucoup d'humour. Je sais pas, et c'est un peu comme tout genre de maladie, il faut désinquiéter les autres gens.
Avec ces souvenirs qui reviennent, qui s'en vont, c'est aussi le travail dans le souvenir. Les deux personnages que vous incarnez vont chercher dans leur plus profond souvenir, reconstruire une mémoire d'un côté et régler des choses qui n'ont pas été réglées dans le passé, mais aussi avec des gros efforts de mémoire. C'est-à-dire que pour quelqu'un atteint d'Alzheimer et qui peut oublier son portable dans le frigo, elle a une très très bonne mémoire de ce qui a pu se passer bien longtemps avant. Et ce qui est fort aussi, tu parlais de cette deuxième dame qui vient l'accompagner, c'est que la maladie d'Alzheimer ne touche pas à la danse, ne touche pas à la musique. La chorégraphie, la musique reste exactement dans la mémoire. Vous l'avez compris, on l'a aimé, vous aussi.
Merci.
Vous l'apprécierez. Cette série sur M6 le 18 février. Voici Tristan Lopin.
Bonjour à toutes et à tous. Vous dites certainement que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai changé.
Oui, ouais, c'est vrai, c'est drôle, pardon. Je me disais justement ça, que t'étais encore plus beau, plus solaire, plus serein, que ma vie avait une saveur bien différente depuis qu'on s'est dit bonjour ce matin.
En effet, Emma, je te remercie pour ta participation spontanée. C'est rare, mais tu as raison. Quelque chose a changé chez moi. J'ai été touchée, pas par Daniel, à mon grand désarroi, alors que je ne cesse de faire frétiller devant lui mon postérieur musclé sur lequel j'ai fait tatouer un portrait de Leïla et de Nagui sur chaque fesse pour m'assurer d'attirer son attention. Mais rien. Non, par contre, j'ai été touchée par la grâce. En 2 semaines, j'ai assisté à 3 messes. Je me suis dit, oh, attends, ça va finir en comédie romantique, cette histoire. Ambiance, 4 mariages et 1 enterrement. Et franchement, tout pareil, hein, mais sans Hugh Grant, sans mariage, sans happy ending. Enfin, si, mais quand c'est la famille, ça a quand même pas la même saveur. Pas d'union, pour le coup, donc, mais 2 enterrements et une confirmation. Non. La confirmation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la dernière grande cérémonie religieuse quand on fait du catéchisme. C'est un peu le boss final, quoi. L'occasion de confirmer une dernière fois devant tous notre foi en Dieu. Bon, moi je l'ai surtout faite parce que mon père m'a dit que ça serait plaisir à ma mère et aussi parce que j'avais des potes qui pour l'occasion avaient reçu des cadeaux chamés, genre des Discman. Je vous raconte pas le seum quand je me suis retrouvée avec un rond de serviette en argent sur lequel était gravé mon prénom que j'ai toujours à la maison, hyper pratique pour retrouver où t'es placé à table quand t'habites seul avec tes célibataires. Voilà, bon après chacun son truc. Moi j'ai jamais cru en Dieu, j'ai déjà du mal à croire en moi, donc bon. Il y a même une période à laquelle j'ai pensé faire mon apostasie, faire la démarche de renier mon baptême. Mais là, plus les gens meurent autour de moi, plus j'ai peur de pas les retrouver de l'autre côté si jamais je suis pas sur liste. Parce que être baptisé, c'est quand même la garantie de rentrer au paradis en coupe-file. Et moi, s'il y a un truc que je déteste, c'est vraiment d'avoir à me justifier pour rentrer quelque part.
L'autre fois, on est allé avec des potes dans une boîte qui vient d'ouvrir. Enfin, c'est des mecs qui ont repris un endroit dans lequel on allait souvent avant. Donc, on y va. Ils avaient mis une meuf à l'entrée. Et Vanessa, je crois qu'elle était là pour faire payer à tout le monde tous les caprices qu'on lui avait pas cédés alors qu'elle était enfant. Elle était vraiment là pour ne laisser rentrer personne. Donald Trump, la meuf. Il y a un couple devant nous. Quand on est arrivé, ils venaient pour l'anniversaire d'un pote. Et elle leur répond direct, ah non, on fête pas les anniversaires ici. Comme si les gars venaient pour un goûter chez McDo. Enfin, bref, je sens pas le truc. Je dis à mes potes, on se casse, sous-entendu, on va ailleurs avant de se faire jeter, quoi. On est encore qu'en février. Moi, c'est trop tôt pour encaisser un refus de la part de quelqu'un avec qui j'ai même pas envie de coucher. Mais mon meilleur pote, il lâche rien. Elle nous demande, vous venez pourquoi? Très étrange, cette question. Comme si on devait venir avec un projet, là, clairement. Là. C'est pour se mettre minable et donner de l'eau à mon moulin des regrets. Enfin, la conversation commence à virer passive-agressive. J'avais l'impression d'être devant l'octogone de Rachida Dati et Anne Hidalgo. Et la videuse renchérit. Mais vous connaissez quelqu'un à l'intérieur? Et là, mon pote, bien sûr que je connais quelqu'un à l'intérieur. La semaine dernière, j'ai sucé le dealer de la boîte pour un Taz.
Oh,
clairement, on n'est pas rentré. On a fini dans une boîte sous le périph, beaucoup moins regardant à l'entrée. D'ailleurs, j'ai retrouvé tous mes potes qui ne rentrent jamais nulle part. Emma. Et donc, à tous les outsiders, je vous propose un pacte. Les premiers qui partent nous réservent une place là-haut. Vous savez, comme les connards dans les hôtels qui posent leurs serviettes à l'aube sur les transats autour de la piscine. Quelles que soient nos religions, nos couleurs de peau, nos orientations sexuelles, nos identités de genre, tous ceux qui ont été choisis en dernier au volet au Bayeux auront leur place au paradis. Je vous le dis, on est ensemble.
Merci. Tristan Lopin qui continue d'aller en boîte.
Ouais. Bien sûr,
il essaye.
Pour ralentir le temps, mais en fait, ça l'accélère, je crois.
Des adresses. On va évoquer les souvenirs, ceux qui disparaissent, ceux qui reviennent. Parce qu'on peut perdre aussi des souvenirs sans forcément être atteint d'Alzheimer. D'ailleurs, c'est l'une des angoisses que l'on a dès l'instant. On oublie quelque chose. On oublie une Saint-Valentin. On oublie un truc en particulier. On se dit, waouh, est-ce que j'ai pas
un problème
d'organisation
quand même.
Ouais, c'est vrai, c'est faux.
Oui.
Tout nous rappelle. Comment oublier à Saint-Valentin? La bande originale de la série, d'abord, il y a cette musique de mémoire vive.
J'adore. Ça pourrait être un western.
Ouais. Ah, c'est bien.
Ah, c'est un vrai suspense. Musique que vous avez découverte forcément en voyant la série. C'est-à-dire sur le tournage, on n'a absolument pas la notion de qu'est-ce qui se passe, à quel moment, à quel endroit.
Non, c'est un costume en plus, quoi, la musique.
Belle formule.
Tout à fait.
Et puis.
Merci, Carl.
Olé!
Ah ouais. C'était
chouette en plus qu'il y ait du flamenco.
C'est pas le truc, c'est vous qui avez demandé qu'il y ait du flamenco.
Non, pas du tout, même.
Je me suis demandé.
Quand j'ai vu Carmen avec le châle et qui chante et qui dansait, ça fait un coup, c'est incroyable. En plus, cette femme, elle est merveilleuse. Et ce qui était drôle, c'est que comme elle parlait pas, parce qu'elle parle jamais, ben moi je lui parlais pas. Non, mais c'est con, parce que tu prends
vous
toujours.
Même au quatrième table régie, vous lui parlez pas.
Mais non, mais pas table régie, Nagui. Mais dans le taxi, tu vois, on a des scènes dans le taxi et. Et je lui parle pas, et je lui dis, mais je suis complètement con. Alors je lui dis, mais pardon, Geneviève, en fait, je parle pas, et du coup, ouais, mais en fait, on prend vraiment les gens pour leur rôle, c'est catastrophique, même quand on est dans le métier. Bon, bref. Mais, et c'est une femme, et c'est vrai que le seul mot qu'elle dit, c'est olé. Mais, en fait, la mémoire, c'est vrai que c'est lié à l'émotion, quand même. Moi, j'ai joué une femme qui avait Alzheimer il y a longtemps, une femme Alzheimer précoce, et c'est vrai que l'émotion, c'est-à-dire aller à un concert, écouter une certaine musique, enfin, on le sait, mais c'est vrai que c'est impressionnant.
Il y a des malades d'Alzheimer qui retrouvent des morceaux au piano et n'ont rien oublié d'une partition très compliquée, mais ont oublié le prénom de leur enfant. C'est ça qui est totalement bouleversant. On en parle donc avec Hugo Botman, qui est psychiatre et chercheur associé à l'Institut du cerveau dans quelques instants. Mais la musique dans vos vies, Clémentine Sinari, on va changer de style en 89-90, vous écoutiez. Mais c'était la musique de l'été à l'époque.
J'entendais ça, c'était on habitait matraqué. À Nanteuil à l'époque.
Bah oui,
le tube en Chine. Et en fait, j'entendais ça, c'est pas tant que je l'écoutais moi, mais comme j'ai dû vraiment me dépêcher pour choisir les titres, je savais plus trop.
Non, c'était matraqué partout.
Complètement. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis allé à Lambada.
Très bien, Lambada en 89-90. Laïla, que se passait-il pour Clémentine Sinari?
Clémentine, vous êtes nommée au César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Nocturne Indien. d'Alain Corneau.
Mmh.
Ouais.
Mmh, c'est chouette. C'est... Là, tu... Alain Corneau, un mec, la classe atomique. Regardez Série Noire. Hein.
Ah. Ouais.
Il y a beaucoup de...
Ah
oui, ouais. C'est incroyable.
Et là,
c'est...
Boyer.
Et là ah, votre ouais. rôle dans Nocturne Indien.
Bah, c'était génial. J'ai découvert l'Inde, surtout. J'ai rencontré un mercenaire, vous vous rendez compte?
Donc vous êtes tombé amoureuse?
Non, mais bon, oui, bien sûr.
Bah ouais.
Et, mais après, donc, on est parti. Dans la tête de Nagui. Non, non, mais bon, bah, vous savez, moi, je, bon,
il était beau.
Et puis, il n'était pas que mercenaire, il était gentil aussi. Il nous a emmené partout. Il nous a emmené partout visiter avec mon fils, Abraham, qui avait 2 ans. Enfin, c'était génial. En plus, bon, pardon.
Non, mais
il était très gentil. Mais c'est vrai que j'étais au cinéma en Inde. On était à Bombay. C'était extra... L'Inde, c'est un pays que je recommande à tout le monde. C'est extraordinaire. Hein. Et les gens huaient, le public huait les méchants. Non, mais c'est merveilleux. Quoi. Ah, c'est ouais. l'enfance, vraiment. Mmh. Voilà.
Elisa Erka, vous naissiez dans ces années-là et à la maison, sans doute. Pourquoi cette BO qui nous renvoie au grand blond, évidemment, avec une chaussure noire?
Parce que j'étais bien endettée en 89, puisque j'étais un tout petit bébé, pas encore né. Parce que ça, c'était vraiment, j'ai grandi avec Pierre Richard, et j'ai grandi avec le grand blond, notamment cette chanson que j'adore, et qui d'ailleurs est une chanson reprise par Polo et Pan, qui est un de mes groupes préférés. Enfin, je trouve cette chanson, c'est un bijou, quoi.
Parfait.
Vous êtes née à Royan, Charente-Maritime, avec... ouais, c'est pour ça que je le précise.
À Saint-Georges-de-Didonne, précisément.
À Saint-Georges-de-Didonne, que je connais parfaitement.
D'où
la marinière.
Bien sûr, fille du Poitou. Vous dites, artiste, c'est une vocation.
J'ai dit ça?
Ouais, vous l'avez dit. Vous aviez toujours su que ça serait... Vous avez toujours su que ça serait votre place, en fait, d'une façon ou d'une autre, que ce soit l'expression par la chanson, par le jeu, la comédie, en tout cas, que c'était par l'expression artistique que vous alliez habiter ce monde.
Oui, après, c'est pas du tout vécu comme ça au début. Au début, on a envie de briller, d'être un peu pour les mauvaises raisons. Puis après, parce qu'on sait pas s'exprimer autrement, j'imagine, il y a un
moment. On veut être vu?
Pour être vu, je pense.
Applaudi, faire de la danse.
Oui, ou peut-être être entendu. Je pense qu'il y a une espèce de revanche un peu, peut-être à cet endroit-là, un endroit. Et après, ça devient du travail et du plaisir. Et voilà.
Mais quand tu arrives de Royan, t'as envie de...
de briller, ouais, voilà, c'est clair.
Saint-Georges de Didonne.
En 2011-2012, Clémentine Sarrier, vous écoutiez.
Il me manque tous ces gens, tous ces rimes. On a écouté ça avec mes enfants, on faisait des longs trajets, et c'était Abraham qui était DJ à l'avant, et on écoutait ça. Tout
ce sont vos enfants qui vous ont amené à cette musique?
En fait, je les ai amenés à la funk, et de la funk, ils ont été au rap, puisque c'était à l'époque, quoi. Et puis le R&B, tout ça, moi, ça me manque, ça, ça me manque. Bah, c'est pour ça que je cherche des bonnes boîtes où il y a du bon son, tu vois. Et de l'électro aussi, mais voilà. Mais mais ça, c'est génial. Moi, je vais faire un disque à un moment donné, de toute façon, mais je sais pas quand. La nuit entre.
Entre deux meurtres.
Entre deux séquestrations, ouais, c'est ça. 2011-2012, Clémentine, on vous retrouve avec un spectacle musical que vous avez présenté avec vos 3 garçons. Mm-hmm. C'était quoi le nom du spectacle?
Family Groove.
Ouais. Et alors, c'était quoi le principe?
Ah, bah, on était sur scène tous les 4, on s'est éclatés, on était à Avignon.
Ouais.
C'était vraiment un souvenir génial. Balta, mon dernier fils, avait 14 ans, il faisait du foot avec un ballon. Enfin, bon, bref. On chantait, c'était génial, vraiment chouette.
C'est bien d'avoir pris un ballon pour faire du foot. Est-ce que vous étiez dans la rue pour tracter à Avignon et attirer les personnes? C'est la règle d'Avignon.
Bien sûr, oui, absolument. Oui.
Vous êtes une habituée d'Avignon.
Mais pas eux, parce que c'était un peu délire. Alors le problème, c'est que c'est mes enfants. C'est ça le problème.
Quoi?
Non, mais c'est vrai. Mais parce qu'à un moment donné, vous savez bien, tout est ramené à l'anecdote. On dit, ah ben ça fait quoi de travailler avec ta mère? Enfin, des trucs très chiants.
Ouais.
Donc du coup, on a arrêté à cause de ça, parce qu'on a fait un album et on sait vraiment qui s'appelle Family Groove et qui est super, quoi. Mais bon, voilà. Donc,
alors que j'ai l'impression que vous travaillez plutôt avec des partenaires, enfin, je veux dire qu'il y a une véritable entente qui dépasse. dépasse le rapport familial.
Mais bien sûr, c'est des partenaires artistiques, c'est pas parce que c'est mes enfants, c'est parce qu'ils sont doués. Mais je travaille encore avec eux, sauf que maintenant je ne le dis pas. Donc comme ça, on est tranquille, mais c'est des grands artistes, c'est des personnes qui sont acharnées dans le travail. Bon, bref,
voyez. Elisa Arca, vous écoutiez-vous ?
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage.
Vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu cette chanson ?
Ah ouais. En fait, moi, je trouve que c'est la plus belle chanson. Je me suis dit, quand je tombe amoureuse d'un gars, je veux lui chanter cette chanson, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et je trouve cette chanson me...
Vous avez chanté le coup de soleil devant un garçon, disons.
Ouais, d'accord. Ouais. Il est toujours avec. Attends, ça marche. Ça marche, il est resté, c'est mon amoureux. Et puis voilà, j'ai chanté.
Je note cochon dans le
soleil. Voilà, ça marche, je te conseille.
Écoute ce qu'il a entendu.
J'ai attrapé un coup de soleil.
Ah oui, Lisa.
C'est la version de Lisa.
Je sais pas comment.
T'as bien fait de me prévenir, j'allais dire c'est.
Ouais, c'est clair, j'ai vu sa tête.
J'allais dire c'est pourri, je
dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux.
C'est vraiment. C'est plus que chanter une chanson, c'est. Je
te vois tout nu sur
la
j'adore
se l'accaparer.
J'adore cette chanson.
Non, mais là, c'est le texte.
C'est se l'accaparer, c'est. Oui, c'est la. C'est, je voulais la mettre un peu au goût du jour avec mes influences. Je l'ai pas mis en 2011 au goût du jour. Je l'écoutais beaucoup à cette époque-là, mais moi je suis un vieux monsieur hein, dans un corps de 35 ans. Je suis plus Gilbert Bécaud que Beyoncé depuis toujours, et je suis très touchée par les chansons, les vieilles chansons.
Ouais, qui racontent des histoires aussi, qui parlent. Ouais,
et vous créez votre compagnie à cette époque-là, la Corps de Rêve.
Oui, tout à fait, une compagnie de théâtre.
Théâtre et musique aussi déjà.
Oui, avec voilà.
Donc vous prévoyez, enfin vous étiez sur scène, vous mettiez en scène, vous montiez des spectacles.
C'était... Voilà, j'écrivais, je mettais en scène, je jouais avec trois bouts de ficelle, et puis après on a grandi un petit peu. Et...
Ça c'est dans l'idée de se dire, si d'autres ne viennent pas me chercher, je vais m'en occuper toute seule.
Toujours, ouais. Toujours.
Qu'est-ce qu'il y a, Clémentine ?
Ah oui, pareil. Ouais. Attention, faut pas attendre que le téléphone sonne.
Non, c'est le problème de ce métier, c'est l'attente.
Bah oui, il faut pas. Il faut créer des trucs, il faut écrire. Moi, je savais pas que t'avais fait tout ça. C'est génial, ça m'étonne pas.
C'est sympa d'être venu, Clémentine. Vous allez voir. En 2017,
apprenez à vous connaître, c'est pratique.
Non mais elle parle pas aux actrices avec lesquelles elle travaille.
C'est une super partenaire, toi, gentil.
En 2017. 17, Clémentine, vous écoutiez.
Voilà. C'est l'année où il est mort. Et moi, j'adorais cette chanson et j'avais été le voir en concert. Et
vous aviez joué avec lui ?
Non, jamais. Il m'avait fait une petite déclaration, qu'il devait faire sûrement à d'autres femmes. Mais c'est génial, que j'aimais beaucoup, et voilà. Donc c'est pour ça, Pitigo, j'aimais bien parce que ça pleure, c'est un peu romantique, tout ça, c'est beau.
Signé Michel Berger, sublime.
Oui, absolument, bah oui.
Et on vous retrouve nommé aux Molières de la Comédienne dans un spectacle de théâtre privé pour Darius. On vous retrouve aussi sur scène, sur la route de Madison, au Festival Off d'Avignon. C'est un rendez-vous que vous manquez rarement, le Festival d'Avignon.
Oui, j'adore parce que c'est des ateliers de créativité, de travail, on cherche tout ça. Cette année, je pourrais pas y aller parce que je vais tourner, mais et puis là, je sais pas ce que je vais faire au théâtre après La Maman du Bourreau, et peut-être une comédie, quelque chose. Je sais pas. Mais mais en tout cas, oui, Avignon, c'est vraiment précieux. Ouais. Et les Vantaggioli, c'est mes amis, ils ont un théâtre, le chien qui fume. Mais c'est bien la fidélité, les gens qui sont, c'est important dans ce métier justement, les fidèles.
Vachement bien.
J'ai vu Clémentine dans La Maman du Bourreau, elle est époustouflante.
Ouais, nous aussi.
Oh, c'est sympa.
Parenthèse.
Bouleversante. Non, c'est vrai.
Je suis en tournée de ça en ce moment aussi.
Oui, on en parlera.
D'où la gueule de cul.
Elisa.
C'est pour ça que j'en parlais.
C'est nouvelle,
Elisa.
C'est le titre du nouveau spectacle.
Elisa Arca, vous écoutiez. Vous chantiez.
Moi, j'ai. Ça fait un peu prétentieux.
Tout va bien.
Il pleut dans ma chambre ce soir.
Vous travaillez vos chansons, vous les écrivez, paroles et musiques, les arrangements.
Oui, voilà. En fait, je précise quand même que je m'écoute pas. Je me fais pas un kiff en m'écoutant.
Bah,
non, mais c'est l'année 2017, c'est l'année de mon premier EP où j'assume complètement de faire un projet musical à côté de ma vie de comédienne. Et j'écris cette chanson, La Mer à boire. J'écris un spectacle sur La Mer à boire. Donc c'est ma mère, la mère M-E-R-E. Et donc je compose cette chanson et J'ai choisi cette chanson aussi parce que, pardon de faire un peu de pub, il y a un film qui sort le 18 juin de Yoann Dionnet qui s'appelle Avignon.
Oui.
Sur le Festival d'Avignon, et Yoann Dionnet
dans
a choisi...
Dans lequel vous êtes.
Dans lequel je suis, et Yoann a choisi cette chanson à moi, dans la BO du film.
Donc vous avez bien fait,
avec
on
Baptiste
est là pour
en parler. Avec Baptiste Caplin, voilà, on en a
fait.
Parlé un petit
Baptiste
peu avec
Caplin. Baptiste
ouais.
Caplin.
Ouais.
Ah, c'est mon chouchou.
Vous voulez lui chanter un coup de soleil?
Non, mais je voulais lui rappeler que je mangeais ses croûtes, enfin pas ses croûtes. Il était dans les randonneuses, Baptiste.
Ah oui,
il est tellement drôle, là, puisqu'il je l'adore.
Et donc vous mangez ses croûtes.
Non, mais ses croûtes, pas les siennes, pas les croûtes, il est dans son assiette.
Ouais, d'accord.
On avait bien compris. Enfin, on espère
trop d'informations.
Nous allons revenir à Mémoire Vive, donc cette série qui passe au 18 sur.
Pendant le dossier croûte, c'était pas mal.
Sur M6, avec Hugo Botman qui revient à ce micro. Merci, Hugo, d'être un fidèle de la bande originale. Vous êtes psychiatre et chercheur à l'université Paris-Saclay. Vous avez notamment écrit avec Lucie Joly sur la dépression au féminin, pour démystifier, comprendre, guérir. Ça se passe aux éditions du Rocher. On parlait tout à l'heure de la mémoire et de notre premier souvenir. Tous, on allait chercher autour des 4 ans. On avait du mal à partir avant. C'est normal de pas avoir en mémoire les 1 an, les 2 ans?
C'est tout à fait normal, parce qu'en fait, on a une sorte d'amnésie, qu'on appelle l'amnésie infantile, qui touche vraiment les premières années, donc jusqu'à 4 ans, et qui est due au développement assez immature de zones de la mémoire, notamment l'hippocampe et les zones du langage. Avant 4 ans, on peut pas trop parler. Et donc, en fait, la mémoire ne peut pas se développer à ce moment-là. Donc, on a une sorte de reconstruction, on peut avoir des brides de souvenirs de 2-3 ans, mais en général, c'est des souvenirs qui sont faux, qui sont associés à des images qu'on nous a montrées.
Des vidéos, discussions de famille.
Exactement.
Qui
donc ça sert à rien de s'occuper de son enfant avant 4 ans, je veux dire, faire des activités et tout, il s'en souviendra pas.
Au contraire.
Là, le soulagement, je l'ai là.
Je l'ai même plus au cinéma.
Non, mais parce que. Alors, moi, j'avais entendu que tout ce qui se passait dans la vie d'un enfant entre 0 et 5 ans allait le marquer à vie.
Tout à fait. Parce qu'en fait, il y a cette mémoire, donc une mémoire explicite, une mémoire épisodique à laquelle on peut avoir accès. Mais on a d'autres types de mémoires qui, elles, vont pas, pour le coup, être encodées et qui vont vraiment. Pendant ces premières années, être extrêmement importante pour l'ensemble de la vie. C'est-à-dire, de la mémoire motrice, on a des mémoires émotionnelles qui vont être associées après au développement affectif de l'enfant,
mais aussi
à son développement cognitif.
Aussi son caractère, aussi sa vie en société.
Exactement. En fait, pendant ces premières années de vie, le cerveau, il se construit. Il y a une sorte de construction de l'architecture du cerveau qui après va être à la base de la personnalité, va être à la base du fonctionnement de l'adulte. Donc, bien sûr, ces premières années sont importantes. Il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que cette amnésie infantile, parfois, elle peut persister. Quand on a été victime de violences physiques ou sexuelles dans l'enfance, on peut avoir des amnésies qui persistent jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Mmh. Et puis parfois, on a une amnésie infantile qui revient à certains moments de la vie. C'est-à-dire qu'on a certains souvenirs de 5 ans, on a été victime à 7, 8 ans, et on a une amnésie qui se met sur la période des violences. Donc c'est une amnésie qui peut revenir à certains moments.
Cette explication trouvant totalement un écho avec la série Mémoire Vive, justement. Ce côté, je ne sais pas où j'ai mis mes clés, mais je suis capable de réciter un poème ou de jouer un morceau classique que j'ai appris il y a 30 ans. C'est logique, c'est normal.
Tout à fait. Donc il y a plusieurs sortes. Déjà, la mémoire, c'est pas associé à une zone en particulier du cerveau. Ça implique vraiment tout le cerveau. Il y a différentes sortes de mémoire avec différentes catégories de personnes. Il y a des gens qui sont super puissants en mémoire autobiographique, qui vont se souvenir extrêmement bien de leurs souvenirs. Il y a une américaine qui s'appelait Jill Price, qui avait des souvenirs comme ça de chaque jour de sa vie, tout au long de sa vie, mais qui était incapable de se souvenir d'une liste de mots, par exemple. Elle était très mauvaise pour d'autres types de mémoire. Il y a d'autres qui ont une mémoire procédurale, c'est des mémoires automatiques, motrices, qui vont être extrêmement puissantes. Les grands sportifs, par exemple, ils ont une mémoire procédurale très puissante. Mmh. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir des capacités de mémoire, par exemple, eidétique, c'est-à-dire la mémoire photographique. Ils voient une page d'un livre, ils vont s'en souvenir toute leur vie. Ils voient une suite de noms, ils vont être capables de s'en souvenir. Il y a aussi une forme de mémoire qu'on appelle synesthésique, qui est assez fascinante. C'est quand on associe dans sa mémoire, et bien finalement, des éléments abstraits avec des couleurs, des textures, des émotions.
Ou des gestes.
Donc on voit des choses et puis ça nous rappelle, il y a une sorte d'association comme ça qui se fait avec des éléments très sensoriels. Donc les champions de mémoire, en général, ils ont un mélange de ces différents types de mémoire. Ils sont un peu eidétiques, un peu.
Mais ils peuvent oublier les clés de la maison.
Ils peuvent oublier d'autres éléments.
C'est ça qui est paradoxal.
Mais... ils n'ont pas forcément des mémoires qui sont très efficaces.
Les acteurs ont chacun des tips justement pour retenir un texte joué au théâtre pendant une heure et demie en connaissant et leur texte et les répliques de celles ou de ceux qui sont en face pour pouvoir jouer et être en écoute.
Ouais.
Ça se travaille. Alors,
c'est accessible à tout le monde, ça.
Oui,
c'est pas exceptionnel.
Certains écrivent, d'autres apprennent avant de dormir, comme si la mémoire continuait de fonctionner en dormant.
Ouais, alors ça se travaille, il y a même une technique qui est utilisée depuis l'Antiquité, qui s'appelle l'ars memorativa, l'art de mémoire, la méthode d'Eloki ou le palais mental. C'est l'idée de construire une sorte de palais mental, de palais avec une architecture, ça peut être une église, ça peut être une sorte de palais en marbre qu'on imagine dans sa tête. Mmh. Et puis on se promène un petit peu dans ce palais, on voit un petit peu les différentes pièces, et à chaque pièce, à chaque élément du palais, on associe un texte, on associe un mot, on associe une phrase. C'est quelque chose qui était utilisé par les orateurs romains, par exemple quand ils devaient faire des diatribes à la foule, qui a été décrit par Cicéron, et qui est utilisé aujourd'hui par les champions de mémoire, par les acteurs, c'est très très fréquent. On sait que les moines aussi l'ont utilisé pour retranscrire la Bible. Ils apprenaient la Bible comme ça et la retranscrivaient grâce à cette méthode du palais de mémoire.
Donc il faut la travailler, sa mémoire, quand on a peur justement d'Alzheimer, quand on a peur qu'avec avec l'âge, on oublie des choses. C'est comme un muscle, ça se travaille.
Tout à fait, la base de la mémoire, c'est la répétition. Répétition, enseignement, c'est-à-dire...
Déjà, on n'arrive même plus à retenir un numéro de téléphone, tout est en mémoire dans nos téléphones.
Il y a une mémoire qui nous est maintenant assez inutile, hein, de travail en général, maintenant on ne l'utilise plus. Mais bien sûr, plus on la travaille, plus on la reconsolide, plus ça va être efficace. Il faut aussi se dire que nos souvenirs, ils sont toujours imparfaits. Ça n'existe pas les boîtes noires. Vous n'avez pas de vrais souvenirs de votre passé. Le souvenir, c'est à tout moment une reconstruction. Mmh. Si je fais appel à un souvenir de mon enfance, le gâteau au chocolat...
Ça s'appelle mytho. Hein.
Si je mangeais gâteau au chocolat...
Si on reconstruit son souvenir...
Ouais, mais en fait, on reconstruit tout ça à tout moment. Ouais. C'est-à-dire, je fais appel à ce souvenir du gâteau au chocolat que je mangeais avec ma grand-mère, et bien à ce moment-là, le souvenir, il va être réencodé différemment. Mmh. Il va intégrer des éléments de la pièce, des éléments sensoriels actuels, les couleurs actuelles, la chaleur que je ressens, le son de la voix de Nagui. Tout ça, ça va rentrer, ça va perturber mon souvenir. Et à chaque fois qu'il va revenir...
Sympa.
Ça va en faire un bon souvenir.
Sympa.
Clémentine,
je perturbe son souvenir.
Non, mais j'ai remarqué que c'est un muscle, donc on est d'accord. C'est-à-dire que les personnes, on pourrait influencer des personnes à apprendre des textes, à apprendre une page de texte par jour, ou lire des choses.
Il faut garder, entretenir les connexions des neurones pour que la mémoire
fonctionne. J'ai l'impression, et moi j'ai remarqué un truc, c'est que quand je répète mon texte et que je mets pas l'émotion, j'ai dit, quelquefois ça part. Et alors ma question, pardon, je peux.
Bien sûr.
C'est pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'émotion pour essayer de faire revenir la mémoire à des êtres, alors qu'on a vu que l'émotion était un facteur. Pourquoi alors?
C'est un bon apprentissage, justement. Quand on apprend à des élèves, notamment un texte, on essaye de mettre des éléments émotionnels. Parce que l'émotion, ça va déclencher l'amygdale, donc une zone très importante dans le cerveau. Et l'amygdale, elle va interagir avec l'hippocampe et avec des zones de la mémoire associées dans le cerveau. Et elle va faire que la mémoire est beaucoup plus solide. C'est-à-dire qu'il y a une consolidation qui se fait de façon beaucoup plus importante. C'est pour ça que quand vous avez un souvenir qui est traumatique, un souvenir qui est émotionnellement très négatif, ce souvenir, il va s'imprimer dans votre mémoire. Et ça peut être associé au certain nombre de stress post-traumatique. Vous avez des souvenirs qui reviennent comme ça, de façon répétée tous les jours, et qui est dû justement à cette mémoire émotionnelle. Mais ça peut aussi être positif.
La maladie d'Alzheimer est la seule qui touche la mémoire ?
Alors pas du tout. En fait, toutes les maladies neurodégénératives, ce qu'on appelait avant les démences, peuvent toucher la mémoire. La maladie de Parkinson, la démence à corps d'olive, la démence frontotemporale. Et puis on a aussi des troubles psychiatriques. Quand on a une dépression, quand on souffre de dépression, on a aussi des troubles de la mémoire qui apparaissent. Et avec souvent des troubles de la mémoire épisodiques anciens, on a une tendance à mal se souvenir de ses souvenirs heureux. On a tendance à avoir une focalisation sur les souvenirs négatifs. Et bien sûr, les troubles neurodégénératifs, et ben ils détruisent aussi cette mémoire. La maladie d'Alzheimer étant ce qu'on observe le plus fréquemment.
À partir de quel âge il faut commencer ces exercices de mémoire en se disant il faut que je l'entretienne
toute sa vie, en fait. Il faudrait faire ça toute sa vie, hein, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. En fait, c'est vraiment un exercice quotidien, et on sait même qu'un bon entraînement cognitif, ça va permettre de protéger un petit peu, de limiter les effets du vieillissement cérébral. Il n'y a pas de recette miracle, mais ça permet quand même que les neurones encodent plus d'informations et donc soient plus entraînés.
Souvent dans les tristes affaires justement judiciaires d'amnésie traumatique, en disant mais pourquoi vous avez attendu 10, 20, 30 ans avant de dire que vous avez été violé, on entend souvent ce genre de situation. Ça existe réellement, le fait de mettre une chape de plomb sur cette mémoire-là, de ne plus vouloir avoir en mémoire l'agression et de l'oublier.
Tout à fait, donc il y a des amnésies dissociatives qui ne sont pas toujours associées
à un trauma. C'est reconnu par la justice maintenant, ça ou pas ?
Alors, c'est reconnu, mais c'est surtout en plus pas toujours associé à un trauma, c'est-à-dire que c'est pas forcément associé à un événement. Il y a des personnes qui d'un seul coup vont oublier toute leur identité, tout leur passé. On fait une IRM cérébrale, on regarde ce qui se passe dans le cerveau fonctionne parfaitement, il n'y a pas de trouble cérébral. Et ça c'est très étonnant, ces patients-là, il y a une américaine notamment qui a été retrouvée 12 ans après, elle avait disparu, une américaine de 32 ans, elle avait disparu, elle vivait à Washington, elle a été retrouvée en Alaska 12 ans après. après, avec une amnésie dissociative, elle avait une nouvelle identité, elle a une nouvelle personnalité, elle se souvenait plus du tout de son passé. Il y a une autre américaine aussi, qui avait, un cas qui avait été décrit, qui était mariée, qui avait un enfant, elle a tout oublié du jour au lendemain, et elle a mis plusieurs semaines à se souvenir de toute sa vie passée, de sa vie...
Ah, c'est revenu quand même.
C'est revenu progressivement. La plupart du temps, ça revient progressivement, mais parfois, ça revient pas.
Et pourquoi, pardon de vous couper, pourquoi on oublie, par exemple, un trauma comme un viol ou des trucs comme ça, et parce qu'on se sent coupable, parce qu'on se sent... S'il y a quelque chose... Non, de soi-même, avec cet événement, ce truc horrible.
Alors, quand il y a une dissociation liée à un trauma, en général, c'est un mécanisme de défense. Hein, la dissociation, c'est le détachement par rapport à la réalité. C'est-à-dire que je détache mon corps par rapport à ce qui est en train de se passer, parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir répondre. Ce qu'on voit chez l'animal, d'ailleurs, on a certains animaux, ils se font attaquer par un prédateur, ils vont se dissocier, ils vont s'arrêter, ils vont, ce qu'on appelle un freezing, ils vont tomber, ils vont faire le mort. Et nous, ça nous fait un peu la même chose. Quand on vit un attentat, quand on vit une agression, on peut avoir une dissociation. Et cette dissociation, elle modifie notre mémoire pour nous protéger. Parfois, il vaut mieux avoir l'oubli d'un phénomène que trop s'en souvenir et d'avoir un rappel constant de la mémoire qui revient comme ça.
Ah, vous dites, il vaut mieux.
Ça nous a protégés.
D'accord. Hugo Bodman, passionnant, auteur de ce, avec Lucie Joly, donc de ce livre, La dépression féminin, démystifier, comprendre, guérir, aux éditions du Rocher. Hugo, j'ai envie de vous chanter.
J'ai attrapé un coup de soleil.
Vous êtes beau, vous êtes intelligent. Il y a toutes tes qualités, il y a toutes tes qualités. Merci Hugo, ouais, pour la Saint-Valentin, c'est demain.
Très beau.
Tanguy Passureau, de quoi vas-tu
nous
parler?
C'est gênant, hein, Hugo, cette situation-là.
Non, autant faire des compliments quand même.
Oui.
Ouais, d'accord, Clémentine.
Hugo, il est magnifique. Et j'allais lui dire que moi, je me souviendrai de vous. Vous avez beaucoup de patientes, je pense, qui ne sont pas. Vous consultez. Oui, enfin, je veux dire, pas vous, mais vous vous consulte. Enfin. Vous avez beaucoup. Vous
il est malin, il a ajouté l'adresse, hein, l'hôpital Bissau. Ouais, au troisième étage, Porte B. Tanguy.
Oui. Je parlais d'un influenceur, figurez-vous, un crétin, hein, puisqu'il a trouvé moyen de se blesser en fonçant sur des tas de rouleaux de scotch qu'il avait déroulés et tendus entre deux poteaux. Donc il faut fermer Internet. Voilà.
Très bien. On continue d'en parler dans la prochaine demi-heure. Il y aura également Emma Beaujean et bien sûr nos invités, en l'occurrence Elisa Erka et Clémentine Serraillé, pour parler de mémoire vive. Actrice Elisa Erka et Clémentine Serraillé.
Oui, la cabine est la vie.
Mémoire vive passe sur M6, cette série avec deux destins croisés. L'une qui perd la mémoire, l'autre qui la retrouve. L'une qui est serial killeuse, l'autre qui est enquêtrice autour de ces meurtres. Et au milieu, on va comprendre, à vous de le découvrir dans la série, moi j'ai pas envie de le dire, mais on va comprendre pourquoi leurs destins sont liés, pourquoi leurs routes vont se croiser. C'est drôle, c'est rythmé, c'est bien réalisé, c'est bien joué. C'est une série policière enfin différente de celle que l'on peut voir, et en ça c'est une réussite. Non mais c'est vrai, j'imagine que vous l'avez ressenti dès que vous l'avez lu, non, ce projet.
Foudre immédiat.
Ouais. Ah, oui. N'avez pas hésité, Elisa aussi.
Ouais, pareil.
Pareil. Vous connaissiez Arnaud, comment vous êtes rencontré avec le réalisateur?
Moi par Xavier, qui est venu voir...
Xavier Mathieu.
À ce moment-là, Xavier Mathieu. Et puis, il y avait une volonté, on sent qu'il y a un univers, qu'il y a un monde, enfin que voilà. Et Arnaud est très vite venu... lui, il a une vision incroyable. Il nous a montré des photos de Diallo, tu sais, le truc italien. Là, il voulait styliser le truc. Alors, il y a des costumes assez déments, enfin, qui deviennent déments. Et puis voilà, c'est... il y a des très beaux plans dans le film. Enfin, moi, je suis très fier d'un...
Vous pouvez, c'est...
Moi, je rencontre au casting, j'ai pareil, coup de foudre...
Un casting, vous avez passé un casting?
Oui, absolument, Nagui, je
Mais Elisa, mais vous êtes pas arrivée en disant « je suis Elisa Erka ».
Je suis Elisa Erka, je suis Célia Le Goff, du coup, je suis le rôle « Prends-moi », et ça a marché.
Ah,
voilà. Quelle belle transition, merci beaucoup. je suis bien accueillie.
Daniel, t'en penses quoi?
Moi, je suis tellement d'accord.
La série, donc, c'est le 18. Deux épisodes passeront le 18, et deux autres semaine d'après, c'est sur M6, ça s'appelle Mémoire vive.
Oui,
j'ai adoré
aussi,
en plusieurs mots. Voici Tanguy Passureau.
Je dis pas que je voulais pas d'une Apple Watch, je dis juste que comme cadeau de Saint-Valentin de la part de Daniel Morin, c'est excessif.
Pourquoi ?
En fait, il y a peut-être eu un quiproquo, j'étais à la machine à café, bon, je prenais le ristretto avec option plus de café, j'ai appuyé 40 fois sur plus de café, quand soudain j'ai entendu derrière moi un pas traînant et le bruit sourd d'une barbe de 18 jours qu'on gratte avec trop de langueur. Je me retourne, c'est Daniel, sans ses lunettes. Si bien que derrière, il m'a pris pour Emma Beaujean, parce qu'on a le même physique. Et là, ils ont trouvé face à moi, avec à la main le cadeau qu'il avait prévu pour elle. Il n'ose pas me dire que ce n'est pas pour moi, parce qu'il est d'une profonde humanité. 38 ans à France Inter, à côtoyer de belles personnes. C'est lui ouvert les chakras au pied de biche. Il me tend donc l'Apple Watch. Je vois bien qu'au dos du cadran, il y a gravé D plus E égale love. Mais je reste silencieux. Je me dis, on va pas refuser un cadeau à 600 balles pour une dyslexie de rien du tout.
C'est vrai.
Je l'embrasse pendant qu'il pleure et je mets l'Apple Watch à ma cheville. Daniel, alors, explose de colère. Oui, tu veux pas non plus de la mettre dans le cul. Propos que je signale à l'ARCOM avant de le frapper au niveau de la pomme d'Adam qui se change en confipote. Et je fuis. Je croise Emma en larmes, elle aussi. Elle dit 5 mois que je suis là et j'ai fait tourner la tête de personne. Je suis un rebut. Elle ne sait pas que la montre était pour elle. Je m'enferme dans mon bureau qui occupe toute l'aile sud de la maison de la radio et je me dis, ok, l'Apple Watch à la cheville, c'est pas pratique. À chaque fois que je lis un SMS, je pars en position de yoga. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Eh ben, c'est à cause d'Anna Espinal, une influenceuse fitness que je suis. Du verbe suivre, je ne suis pas cette influenceuse fitness. Sinon, vous pensez bien que je vous aurais donné un coup de main par rapport à vos corps. Anna Espinal explique que le décompte des pas se fait plus précisément quand l'Apple Watch est à la cheville. Et moi, je compte mes pas. Hier, j'en ai fait 4000, mardi 6000 et lundi 23000 parce que je suis allé chercher un sandwich à la cafette qui est à l'autre bout de la maison de la radio. Il faut le savoir, ici, c'est immense. Et c'est rond. Il y a des gens qui se perdent et qui tournent inlassablement. Le jour, j'ai croisé Jacques Chancel au 4e du côté de la porte B. Mais je lui ai dit, mais vous n'êtes pas mort? Il a répondu non, ça fait 14 ans que je suis perdu. On m'a cru mort. On s'est salué, puis il m'a dit, si vous voyez ma chatte Béranger, dites-lui que je l'achète. Oui, je compte mes pas. Tout le monde compte ses pas. Avant, on n'était pas informés. On marchait sans le savoir. Holdelaf, des nuits entières à coller des affiches du FN partout dans Paris quand il était jeune. Il se faisait appeler Holdefaf. Et impossible de connaître le nombre de kilocalories brûlées. Alors je sais, c'est décevant de savoir que je regarde des vidéos d'influenceurs parce que j'ai répondu 4 fois bien à la question culture de Leïla. On pense que je suis intelligent. Mais c'était les 4 fois la réponse des Taylor Swift. Je veux dire, sur Meryl Mann, Voltaire et les 90 ans des Cœurs de l'Armée Rouge, j'ai eu faux. Mais en fait, je suis juste comme influenceuse Anna Espinal. Les autres, je suis pas fan parce que là-dedans, il y a quand même un tas de cons. Je veux dire, les réseaux en auront généré des abrutis. Le type qui a créé TikTok, il a fait plus de mal au cervelle que les 80 ans où la lobotomie était autorisée en HP. Ouais. Exemple, j'ai lu l'histoire de Lil Golo, un influenceur australien. C'est la même chose que chez nous, sauf qu'il transporte son fils dans sa poche. Cet idiot est une star du sport. Il a un physique affûté, des tatouages, une crête sur la tête. Bref, il est cool. Encore plus cool que Bruno Retailleau ou Gérard Lenormand. La hype totale, quoi. Et il a 230 000 abonnés sur Instagram, ce qui lui met la pression parce qu'il faut les garder. Donc il est obligé de poster des contenus aussi cool que lui. Il tire la langue, ou alors il est tout nu, ou alors il boit de la bière, ou alors il se fait poser des piercings dans le téton. Tout ce que ne fait pas Patrick Modiano. Ou alors on ne le sait pas. Je veux dire, c'est pour ça qu'il perce pas auprès de la génération Z. Donc pour épater ses abonnés et en avoir d'autres en plus, parce que c'est un engrenage pernicieux, il a eu l'idée d'un défi visuel. Il a tendu du scotch de déménagement entre deux poteaux et il a foncé dessus torse nu. Ok, il n'y a pas de but. Mais la vie a-t-elle un but? Comme on dut se le dire un jour à la fois Socrate et Paris Hilton. Au départ, un tour de rouleau, donc il court, il arrache tout évidemment. Puis 10 tours de rouleau, le scotch cède également. 100 tours aussi, Lil Golo prend la confiance. Comme Teddy Riner, si sur le tatami face à lui se présentait David Pujadas en slip Snoopy. Donc il se dit hop hop hop, ce qui en Australie se dit hop hop hop. On y va, sur 1000 tours de ruban, voilà, il les installe, il prend de l'élan, il court, il arrive sur le mur de scotch et là, il tombe à la renverse, ce crétin. Il est sonné, mais il se relève. Et là, nous, on serait dit, ok, j'ai appris de cette leçon que viennent de me donner conjointement la vie et la physique. J'arrête là, venez les gars, allons manger un koala frite. Mais lui, qui est un taré de première catégorie, version premium, dit, allez, deuxième essai.
Mais non.
Il retente, et là, encore pire, sa tête vide vient taper le scotch, qui était très solide, hein, avec, on pourrait ligoter Laetitia Hallyday pendant qu'on fouille l'appart pour piquer des inédits de Johnny, tandis qu'elle hurlerait, mais enfin, j'ai déjà tout commercialisé. Résultat des courses, Lil Golo a fini à l'hôpital, pris en charge, et moi, je trouve qu'il devrait y avoir une clause de désengagement des secours en fonction de l'accident. Hein, quand c'est vraiment trop con, un mec qui fond sur du scotch, il devrait avoir le droit de dire, est-ce qu'on veut vraiment ranimer quelqu'un qui fait ça? Non, je sais que c'est pas moral, ce que je dis. Je sais, mais le même avait déjà tenté l'expérience avec du film plastique et il s'était déjà blessé. Donc à un moment, le monsieur n'est pas récupérable. Non. Tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où vous tendez 1000 couches de quoi que ce soit entre deux poteaux et que vous foncez dessus, ce n'est pas vous qui gagnez. On aura au moins appris ça, mais sinon, quel con, mais quel
merci.
Con.
Merci. en tournée.
Oui, et qui doit se dépêcher parce que ce soir il est à Besançon et le 21 mars il sera à Laval.
Clémentine Serrier, Elisa Arca, l'affiche de cette série Mémoire vive sur M6 à partir du 18 février. Deux épisodes par soir, d'autres événements, Leïla. Oui.
On cherche un chanteur qui a passé un moment, comment dire, inattendu en Inde.
Swift.
Non, c'est pas Taylor Swift. Un chanteur mondialement connu qui a improvisé un concert dans la rue. Oui. Absolument.
Ed Sheeran.
Il improvise un concert dans la rue, sauf que le policier le connaissait pas. Il arrive et il débranche absolument tout, alors que les fans s'étaient vraiment, mais tous massivement présentés devant lui. C'était à Bangalore. Et fin du concert, il donnait deux grands concerts dans cette ville et il s'est dit, tiens, j'ai un peu de temps devant moi, je vais faire un happening, ça va être sympa. Petit moment de solitude pour Ed Sheeran. Bon, rien de grave non plus, il n'a pas été...
Il est encore en tôle, là, alors on parle.
C'est ça, il n'a pas été incarcéré, parce que je ne suis pas sûre qu'un petit voyage dans les geôles indiennes, ça soit vraiment l'éclate.
Tu te retrouves avec un mercenaire.
Ouais, voilà, un mercenaire, ça c'est pour faire plaisir à Clémentine. Un moment de solitude que vous avez rencontré ou que vous avez pu observer, ça serait lequel?
Vas-y, Elisa.
Un moment de solitude, j'en ai plein, moi, j'en ai 1000 de moments de solitude. Bah, je vais te dire, quand on te prend pour que une personne t'a pas envie d'être prise, quand on te juge mal, quand on te met au mauvais endroit, je parle dans le métier.
Dans le métier, on vous prend pour qui?
Souvent, très longtemps, de jouer les jeunes premières, un peu. Voilà, je voulais vraiment sortir de ce truc-là, montrer autre chose, donc tu forces un peu, t'es pas au bon endroit, donc t'en as plein des déconvenus, t'es pas naturel, tu te cherches, c'est la merde, on dit que t'es, voilà, t'en fais trop.
Et puis, enfin, ces trois gamins maintenant tatoués sur le front, ça a changé quand même.
Exactement.
Il y a le laser, ça fait des miracles. Ouais.
Voilà. Mais le déconvenu, j'ai envie de dire, c'est un peu tout le temps.
C'est un peu tout le temps dans cette vie d'artiste.
Faut les castings, par exemple. Si, deux secondes. Les castings, c'est un bon moment de déconvenu, ça, parce que ça peut être génial, mais c'est un exercice tellement particulier, tu te prends quand même un bon moment de solitude. Quand
genre
même.
Casting où on vous a demandé quelque chose d'un peu imprévu, inattendu.
Genre, tu joues avec souvent un directeur de casting, qui sont super, mais il y a des directeurs de casting qui te lisent la réplique.
Ils sont pas bons acteurs, eux.
Et puis tu dois pleurer avec quelqu'un qui lit son truc, et l'autre qui te filme dans une salle, il est 9h du matin, tout le monde a mauvaise haleine, et donc faut la vivre, la scène.
C'est un plan serré, là.
Non, mais c'est un...
C'est un vrai moment de solitude.
Et vous, Clémentine, à un moment de solitude vécu ou observé?
Alors moi je triche un peu parce que comme je suis exactement, enfin j'aurais pu dire la même chose qu'Elisa, mais je pensais à un truc, c'est par rapport au spectacle que je joue en ce moment. En fait, il y a quelques jours, il y a une, c'est la maman du bourreau.
Je suis la maman du bourreau. Donnez le titre entier s'il vous plaît.
Absolument. Et il y a une femme qui vient et elle me dit, est-ce que vous pouvez me prendre dans les bras devant 600 personnes? Et je dis, on se connaît, et elle chuchote quelque chose et elle était toute blanche, et je me penche vers elle parce que j'entends pas ce qu'elle dit, et elle me dit en sanglotant, elle me dit, moi aussi je suis la maman d'un bourreau.
Ouch.
Et donc voilà. Je vous raconte ça parce qu'en fait, j'ai découvert depuis.
Mais ça, c'est pas un moment de solitude. C'est
un moment de.
C'est intense.
De tragique et puis de solitude pour elle. Enfin, moi, et en même temps, du courage qu'elle a eu de venir et d'en parler à tout le monde, etc. Et ce qui est chouette, c'est que tout le monde après en partant, parce que on s'est vu après, elle lui a la serré dans les bras. Donc c'était chouette, quoi. Enfin, voilà.
Ce spectacle, Je suis la maman du bourreau, adaptation du roman de David Lelello, prix Claude Chabrol en 2022. Votre spectacle a été désigné meilleur seul en scène à Avignon en 2023. Jusqu'à après-demain en Belgique, ce soir à Arlon, demain à Trois-Ponts et samedi à Spa. Et ça finira le 8 mai.
Ça se termine le 8 mai,
en Belgique. Là, très bien.
Autre question, on cherche une artiste française qui se voit consacrer un dictionnaire chez Lattès. À la lettre A, on pourrait avoir l'entrée Aulnay-sous-Bois. À la lettre Z, Zouk. C'est l'histoire d'une petite fille qui est devenue une star. Madonna, Rihanna, Alicia Keys ont repris un de ses titres. C'est une star internationale.
Française.
Elle n'est pas de Zouk.
Américaine.
Elle n'est pas américaine.
Une star du Zouk.
Non. Une star française, on pourrait
avoir
aussi...
Elle disait pour finir par Zouk, donc je cherche...
Non, l'article, il y a un article dans ce dictionnaire, il y a la lettre Z, il y a un article
vivant,
Zouk.
Vivante.
Ah, Yann Nakamura, bravo Tristan. Et oui, et il peut y avoir aussi l'article Académie française à la lettre A, puisque maintenant, elle y est complètement associée. Un dictionnaire un peu amoureux, on va le dire, de l'auteur chez Lattès, puisqu'il l'érige en reine musicale du moment. Il devait y avoir une incarnation comme ça, artistique ou pas artistique, de quelqu'un qui pourrait rassembler ou qui pourrait un peu symboliser une nouvelle forme d'espoir. Ce serait qui pour vous?
je dirais une actrice qui m'inspire énormément et qui j'aimerais ressembler, par exemple, c'est Léa Drucker. Ouais. J'aime énormément cette femme.
Et ses choix.
Et ses choix, je la connais pas personnellement, je l'ai vue deux fois, j'ai l'impression de... Enfin, ma bouche tombe.
Quand on la rencontre, elle est très décevante.
Oh, salaud.
C'est pas vrai. Non. Et je l'ai rencontrée d'ailleurs le jour de mon anniversaire par hasard dans un resto. Je me suis dit, bon, c'est un signe. Allez.
C'est un cadeau surtout.
Et vous, Clémentine?
Je suis un peu prise de court, puis j'ai un peu la tête dans le. Parce que, non, parce que je joue.
Parce que je suis en tournée. Voilà.
Pardon. Mais je pensais d'abord à Gary Oldman, mais bon, enfin, je pensais pas que c'était dans cette.
Non, ça peut
Gary Oldman, je pense que c'est un acteur incroyable. Mais j'ai un coup de foudre, moi, un coup de cœur pour Florence Foresti. Que j'ai croisé à une émission de télé et je l'ai recroisé il n'y a pas longtemps pour Bref 2 là, qui va sortir, oui. Saint-Valentin. Et j'aime cette femme parce qu'elle est libre.
Mmh. Oui, elle n'est pas forcément consensuelle. Elle va...
Ah non. Ouais,
et c'est compliqué ça. D'être libre.
Et... Ah ben très. Oui.
Venant de vous, ça m'étonne parce que.
Ah ben non, mais c'est compliqué parce que. Moi, je fais là que tout va bien dans des émissions, je vais pas me plaindre. Mais en vrai, oui, la solitude. Bah oui, parce que c'est un combat permanent, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est comme ça, il faut se battre. Mais elle a un truc. Alors j'ai regardé, Boys, là, mais c'est à hurler. Il y a
tellement
des trucs.
Drôle.
Non, mais en plus, elle y va.
Et sur l'âge et le temps qui passe.
Mais oui,
génial.
Mais c'est génial parce que c'est ça, il faut tout retourner, il faut. Voilà, il faut.
C'est pas une belle personne, non?
Tout à l'heure, Leïla a évoqué l'Académie française. Moi, je vais parler de la Comédie française. Vous êtes passé par la Comédie française, Elisa Arca.
J'ai eu un petit saut de puce en 2023.
Bah, c'est classe, quand même.
Ouais, c'est classe. C'était génial. J'ai beaucoup appris. J'ai adoré cette maison merveilleuse.
Parfait. Ouais. On continue avec nos invités jusqu'à midi et demi. Voici Emma Beaujean. Ah oui.
Aujourd'hui, c'est la musique et le fun qui vont guider cette chronique parce que regardez, j'ai ramené mon youkou. Je précise, si vous nous écoutez que vous n'avez pas l'image, je parle d'un youkoulélé. Voilà. Non, parce que ce matin, j'ai juste dit youkou à Daniel. Je dis voilà, j'ai ramené mon youkou. Il m'a dit moi aussi, je les ai. En fait, il pensait que je parlais de mes youkous. Voilà. On parle beaucoup des couilles de Daniel ce matin.
Mais
en plus, c'était trop gênant parce que c'était un vrai moment de malaise dans la cuisine avec maman tout à l'heure. C'était trop bizarre. Bref. Donc, alors, pourquoi j'ai ramené ce youkoulélé? C'est la grande question, on se demande. Eh bien, c'est pour chanter l'amour. Oh. Voilà. Parce que oui, je vous le dis, en ce moment, je suis heureuse, je suis amoureuse. Et oui, Lisa, il n'y a pas que toi qui baise. j'ai décidé de déclarer ma flamme à mon crush du moment en direct à la radio. Wow. Même si j'ai un problème avec l'expression déclarer sa flamme, j'ai toujours l'impression que je dois avouer que j'ai démarré un incendie. Alors que c'est pas moi qui ai craqué cette allumette dans la poubelle devant la maison de Jérémy Pochet pour le faire sortir chez lui après qu'il m'ait bloqué sur Instagram. C'était ma meilleure amie Raphaël. Moi, j'ai juste filmé la scène pour les réseaux sociaux. Oula, oups. Une confession passible d'emprisonnement. On m'a dit que j'en avais le droit à deux par chronique. Que ça montrerait que France Inter n'a pas perdu son dernier loulou avec le départ de Guillaume Meurice. Bon, alors, pour la démarche, cette chanson. Oh, ça me fait penser, Nagui. J'ai fait une chanson pour toi. Je sais pas. Moi, je veux pas que ça vous mette mal à l'aise, mais c'est juste que vraiment, je voulais te remercier.
En fait,
quand même, tu fais partie des gens qui me donnent une chance. Donc, ça vous dérange pas. C'est pas long. Ça, je peux la faire?
Allez,
ouais,
France.
Ok, je suis en fait.
Moi, je suis gênée déjà.
Nagui. Voilà, c'est fini. C'est fini. C'est un peu court, mais comme ça, je me dis, comme ça, tu pourras faire une spéciale. N'oubliez pas la parole. On ne sait jamais, pour une levée de fonds contre Alzheimer. Oh, alors, moi, à chaque fois que je chante un peu comme ça, je trouve qu'en vrai, tu sais, je dis pas que je me suis trompée de carrière, mais je pourrais être une de ces chanteuses qui reprennent hyper dramatiquement à la guitare. Tu vois, des chansons qui, en plus, à la base, sont complètement dans un autre registre. Je vois déjà le truc.
Emma Beaujean, le nouvel album, encore plus touchant, encore plus maniéré, limite insupportable. Et surtout, elle reprend des chansons encore plus improbables. Comme par exemple le générique d'Interville.
Non. Merci beaucoup.
Ah, je le prends.
À chaque fois, désolé, je sens qu'on s'éparpille un peu dans mes chroniques. On se dit, mais attends, elle est en impro ou quoi, la Miss? En impro, je dirais plutôt qu'on a affaire à une pro MDR. Qu'est-ce que tu vas faire, Daniel? Tu peux pas m'empêcher de faire des jeux de mots comme tu veux m'obliger à avoir un petit frère en fécond dans ma mère. Alors, on en était où déjà? Ah oui, je parlais.
parler d'impro. Bah, tu sais quoi, Leïla, est-ce que tu pourrais comme ça me donner trois mots et on fait une impro tout ça. Non, pardon, faites pas Leïla, tu vas dire des mots trop compliqués, je comprends rien à chaque fois. Subordonnée, je ne sais pas ce que tu racontes le matin.
Écoute,
on va plutôt Lisa, voilà, on va plutôt demander à Lisa. Est-ce que Lisa, tu pourrais me donner trois mots comme ça à brûle pour point?
Ouais. Okay. Arbre, nuit et superbe.
OK.
Super arbre au pied duquel j'ai enterré le gigolo que je m'étais commandé pour mon anif, mais qu'a glissé sur le préservatif.
Il est dead le mec, trop mort. Oh là là, j'ai atteint mon quota de confession possible d'emprisonnement, je vais devoir rendre l'antenne. Merci de m'avoir écouté. Yes.
Emma Beaujean sur scène tous les vendredis à 19h au Théâtre du Naturel. Le 19 mars, elle sera à Bordeaux pour le Festival des Fous Rires.
Ouais, mais moi je suis ravi d'avoir retrouvé enfin le générique d'Interville qui revient cet été.
C'est une chanson consacrée.
Mais non, mais voilà.
Excellent.
Je voulais annoncer, mais vous le savez peut-être déjà, qu'il y a un gala pour la Fondation Recherche Alzheimer, puisque c'est l'un des sujets abordés dans la série Mémoire Vive. Ça sera le 17 mars à l'Olympia pour récolter des fonds pour cette fondation et pour que la recherche progresse. C'est autour de la famille Souchon, c'est Pierre Souchon qui organise tout ça, Sandrine Kiberlin, Nolwenn Leroy, Eddie Mitchell, Ours, Vincent Delerme, Carla Bruni, Alecha Schneider, Alain Souchon, Pierre Souchon et Laurent Voulzy. Et j'ai le privilège de présenter cette soirée pour récolter des fonds contre Alzheimer. Ce qui est bien, en tout cas dans votre série, j'y repense, c'est qu'elle n'est pas, plombante, elle n'est pas culpabilisante. Évidemment qu'on vit un drame quand on perd la mémoire, évidemment qu'il y a des traumatismes, une amnésie traumatique qui est présente aussi dans la série, mais tout ça est vu d'un œil frais, extrêmement positif et qui engendre plutôt le suspense et l'humour que la déprime et la tristesse. C'est réussi.
Merci.
Non, mais c'est vrai.
Ouais.
Elle est active. Elle est active. C'est le meilleur conseil à donner. Restez actif.
Clémentine, justement, l'activité, on vous retrouvera sur TF1 dans la série Enquête en famille. C'est Dominique Farrugia.
Oui,
vous froncez les sourcils, pourquoi ?
Non, parce que c'est pas, on n'a pas la date de sortie, hein.
Ah, moi non plus.
Non, c'est ça. Non. Oui, parce que je dis tiens, il est au courant d'un truc. Oui, Dominique Farrugia que j'adore, qui est vraiment, qui a réalisé quelques épisodes.
Parfait.
Et c'est vraiment, et
avec Sophie Boudreau
aussi.
Ouais.
Et vraiment, c'est chouette, c'est complètement dingue. C'est deux parents débiles qui font chier.
Très bien. Vous nous aviez parlé de Pierre et Jeanne, un long métrage que vous avez réalisé la dernière fois.
Oui.
Et vous l'avez
Ah non, c'est pas sorti, mais ça sortira soit quand je serai morte, soit oh, je rigole.
Vous viendrez à ce moment-là nous en parler
avec la mort. Voilà, je viendrai avec Jacques Chancel qui sera et machin. Non mais ça c'est rien, mais j'écris en ce moment des trucs à venir, c'est surtout ça en fait.
Très bien. Elisa Erka, vous écrivez aussi un nouvel album ?
Oui,
j'imagine.
Il est terminé.
Ah,
il est fini.
Il va s'appeler comment ?
Je ne sais pas encore ça. Il y a un single qui va sortir entre mars et avril, on va dire. Et c'est 10 chansons sur l'amour avec 10 couleurs déclinées. Voilà.
Parfait. Vous serez donc le 18 juin à l'affiche de Avignon, le premier long métrage de Johan Dionnet avec Baptiste Caplin, Alison Wheeler, Rudy Milstein, formidable.
Qui a eu un prix, non, Avignon, là ?
Oui, on a eu le grand prix du jury, on a eu cette chance-là.
Ah, parce que Rudy a eu un Molière, lui aussi, de mémoire.
Il est génial, donc oui.
Et ce film a été présenté en janvier au Festival d'Alpes d'Huez avec 3 prix, grand prix du jury, donc prix des abonnés Canal et prix Coup de cœur des Alpes dans lequel donc vous jouez et la musique c'est donc ce qu'on a entendu tout à l'heure.
Voilà exactement. La mer à boire.
Et la magie de la radio.
C'est pas la mer à boire de l'entendre cette histoire, pourtant il pleut dans ma chambre ce soir.
Ce qui est bien c'est que vous vous retrouvez toutes les deux et extrêmement complices à aimer chanter, à aimer la chanson, à aimer la comédie, à aimer le drame. Il y a aussi quelque chose que je trouve émouvant de vous avoir réunis à ce micro et merci d'avoir accepté cette invitation malgré la fin. Que voici avec les excuses de Daniel Moore.
Ah oui.
Désolé les amis pour notre spécialiste mémoire, Hugo Botman, qui nous a raconté avec beaucoup d'émotion le mauvais souvenir du gâteau au chocolat de sa grand-mère chez qui apparemment vivait Nagui. Alors, finalement, on en sait assez peu sur Nagui. Ouais, est-ce que Nagui fréquentait la grand-mère de Lisa, dont elle nous a parlé en début d'émission? Nagui est-il cette femme dont les cuisses font floc-floc quand Tristan les tripote sur la plage? Moi, je pense que oui. Autre proposition. Désolé pour nos auditeurs un peu sensibles qui ont trouvé ce matin qu'on avait parlé un peu trop de crimes, de vengeance, de mécouilles, de bananes, de Richard Cochin et d'Apple Watch dans l'anus. Oh, c'est un peu plus amusé. Désolé pour tous nos auditeurs qui nous écoutent en préparant le déjeuner et qui, en touillant la vinaigrette, ont entendu Clémentine déclarer « J'ai mangé les croûtes de Le Caplain ». Et qui, du coup, ont abandonné le projet déjeuner. Allez, les gars, on reste sur les apéricubes et le Ricard.
Mémoire vive sur M6 le 18 février prochain, deux épisodes. Demain, c'est la Saint-Valentin.
J'ai à trouver.
Allez, là.
Les droits d'auteur, ça va tomber, là.
Et demain, nous recevrons Tania Garbarski et Charlie Dupont pour évoquer, en attendant, Beau Jangles. Merci, Elisa. Merci, Clémentine.
Merci.
Journée sur Inter. À bientôt. Ciao.